Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Salut à tous, c'est Kevin et vous êtes sur RKS pour votre émission Rien à foutre, l'émission qui vous informe sur l'actualité footballistique en Isère. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour parler football et mettre en lumière nos clubs amateurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission avec non pas un, mais deux invités. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas revu deux personnes dans les locaux d'RKS pour cette émission. Donc pour la première mi-temps, je recevrai Guillaume Le Gall, éducateur U15 au FC Sud Isère. Il nous parlera de son parcours, de son club. Et pour la deuxième mi-temps, je recevrai Damien Padilla, préparateur physique, qui nous parlera de son métier. Il nous donnera peut-être des conseils aussi pour bien réussir la préparation physique avant le début de la saison. Mais avant tout cela, on va démarrer comme d'habitude par les principales actualités footballistiques de la semaine. Vous êtes sur RKS, bienvenue dans Rien à foutre.
RKS, RKS, l'esprit grenoblois.
Et au niveau des actualités, on a pas mal d'infos, notamment liées aux poules qui sont sorties pour les seniors. Et je suis notamment avec quelqu'un que vous connaissez bien, puisque je l'ai eu déjà quelques fois dans l'émission, et je l'ai quelques fois aussi au téléphone pour parler de son club. C'est Mathieu Sciency, le coach de la CC Ciné. Salut Mathieu.
Salut Kevin.
Comment vas-tu ?
Eh ben écoute, ça va bien.
Bon, super. Alors, tu as vu ce tirage, donc tu es dans la poule C, toi, avec ton club. On va citer quand même les équipes. Il y a Aix, Annecy 2, Bourg-Péronnas 2, Chassieux-Dessines, Cluses-Chonzé, Échirolles, le Grenoble Foot 38, la réserve, Limonest 2, Lyon, Cessiné, Valence et Villefranche 2.
C'est ça.
Ouais, donc il y aura pas mal de derby déjà, ça c'est cool.
Ouais, bah écoute, je suis content que tu aies redonné les équipes de la poule là, parce que ça fait réaliser à nouveau, effectivement. Ouais, des jolis derbies. Après, il y a des satisfactions. Hein. Écoute, quand tu es entraîneur ou joueur, tu fais ça pour avoir la chance de jouer des matchs comme ça, et surtout à ce niveau-là.
Ouais.
La deuxième, c'est qu'il y avait une vieille rumeur qui disait qu'on essayait de s'échapper un peu de cette poule et d'aller du côté de l'Auvergne. Donc au moins, ça fera taire un peu ceux qui propageaient cette fausse information. Par contre, c'est vrai que ça pose quand même des questions par rapport au niveau des deux autres poules, de dire qui on va laisser derrière nous quand tu sais qu'il faut en laisser quatre.
Ouais.
C'est quand même une sacrée poule.
Ouais, ouais, non mais ça c'est sûr. Hein. Bon, puis des beaux clubs quand même. Cluses, c'est pas mal. Échirolles, on connaît le niveau. Puis la réserve du GF 38, ça c'est bien ça. Ça va te rappeler des bons souvenirs.
Ouais, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a quand même une réserve de Ligue 2 et trois réserves de National 1. C'est quand même du jamais vu. Si tu compares ça aussi aux autres poules. Et puis la réserve de Grenoble a affiché clairement des ambitions cette année. Celle de Bourg-Péronnas est toujours placée. C'est un peu. Bon, on comprend l'organisation géographique. Maintenant, sincèrement, quand tu regardes la localisation de Bourg-Péronnas ou d'autres clubs autour ou de Villefranche, je pense qu'il aurait pu avoir une répartition un peu plus équitable. Mais bon, écoute, on fera avec. Ça joue sur le terrain, pas sur le papier. Mais ça pose quand même la question de la légitimité. On a presque l'impression qu'on nous a fait un cadeau de montée, qu'on va nous fracasser la saison prochaine. Donc on se battra contre ça. Mais c'était un peu les incohérences à prévoir entre le niveau national qui avait décidé des choses et le niveau ligue qui en a décidé d'autres. Et aujourd'hui, on va payer un peu ce tribut-là. Mais je pense qu'il n'y a pas une seule équipe de la poule, à part ceux qui s'annoncent favoris, qui sont pas un peu dans la même réflexion que nous, à savoir que ça va être très très intéressant, mais très très compliqué aussi.
Voilà. Ouais, tu l'avais déjà plus ou moins annoncé quand tu étais là, même quand la poule était pas sortie, tu étais venu et tu nous avais dit que tu t'attendais un petit peu à ça quand même. Donc c'est une demi-surprise.
Alors, j'avouerais que même dans mes pensées les plus sombres, elle n'était pas aussi élevée. Hein, donc, j'avouerais que les 2-3 équipes qui étaient un peu en fond de tableau la saison dernière dans la poule du Rhône-Alpes, ils l'ont basculé de l'autre côté. Donc c'est là où je te dis que ça laisse un peu son genre, mais si on sort de là, à l'inverse, ce sera un super challenge. Et je pense que maintenant, c'est comme ça qu'il faut le voir et puis se concentrer uniquement sur ça. Voilà.
Ouais, bah écoute, qu'est-ce qu'on te souhaite du coup, Mathieu, pour la saison prochaine alors
Bah écoute, vu la poule, de ne pas me faire virer en novembre et puis de réussir à faire bonne figure pour pouvoir montrer qu'on est quand même en train de structurer tout ça et puis que les mecs puissent prendre du plaisir un maximum et qu'il y ait du monde au stade, parce que je pense que les gens n'ont pas vu de football depuis un moment et qu'il y aura des affiches sympas. Donc je pense qu'il y aura vraiment des si le virus nous fout la paix, et ça semble pas très très bien parti, mais en tout cas si on arrive à tous rejouer au foot, et c'est pas tes invités du jour qui me contrediront, au moins qu'on puisse prendre du plaisir, voilà.
Voilà, ben bah écoute, on se le souhaite pour la saison prochaine. Bon courage en tout cas pour la reprise. Là, je pense que la reprise c'est plutôt prévu pour août pour toi, donc profite bien.
Nous on reprend lundi, nous.
Ah, vous reprenez lundi, bah oui,
ouais,
t'as raison.
Je fais partie de ces entraîneurs feignants qui les ont laissés au repos jusque là, et on préfère reprendre plus tôt.
Ouais. D'accord.
Voilà.
Ouais, non mais ok, bah très bien, bah bonne reprise en tout cas à toi, à tout ton staff et ton groupe, et puis bah écoute, on prendra des nouvelles, tu le sais, hein, de ton équipe, hein, et puis bah bonne journée, Mathieu.
Merci, bonne émission à vous, salut.
Salut.
Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Et c'est toujours un plaisir, hein, d'avoir Mathieu Ciancy au téléphone et son franc-parler. Je suis donc avec Guillaume Le Gall, qui est mon premier invité aujourd'hui. Salut Guillaume.
Salut.
Ça va bien ?
Ouais, ça va, et toi ?
Bah ouais, ça va super. Alors comment ça s'est passé, cette fin de saison un peu particulière, Guillaume ?
Eh ben, je pense qu'elle s'est passée comme dans tous les clubs, hein. On a été coupé dans notre élan.
Ouais.
Et puis on a essayé de terminer la saison la dernière semaine de juin et la première de juillet. En accueillant nos licenciés.
Ouais, d'accord. Et du coup, comment ça s'est passé ? T'as refait des entraînements, toi, ou pas ? Ouais.
Moi, sur ma catégorie U15, on a refait 4 entraînements.
Ouais.
Au rythme habituel de 2 par semaine.
D'accord.
Et puis, je pense que chaque catégorie a fait au moins une journée de fin de saison
pour
remercier les enfants et les parents, évidemment.
Ouais, je pense que ça s'est fait dans pas mal de clubs. Il fallait faire un petit peu une transition. C'est vrai que terminer la saison sur ce confinement, ça aurait été un petit peu dommage. Puis du coup, ça t'a permis peut-être de faire le pont aussi avec les joueurs sur l'année prochaine, sur ton groupe pour l'année prochaine.
C'est exactement ça. C'était terminer cette saison et puis anticiper la prochaine.
D'accord, ok, bah super. Alors moi du coup je voudrais déjà je suis content que tu sois là Guillaume, parce que j'avais eu personne encore de Sud-Isère ici, hein, il faut pas oublier qu'il y a un club qui existe hein, dans le plateau mathésin.
Ouais, merci de le rappeler.
Donc ouais, je suis très content que tu sois là, et puis bah, j'aimerais bien justement que tu présentes d'abord ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, comment tu es devenu éducateur, pourquoi Sud-Isère plutôt qu'ailleurs, et puis tu nous parleras après du club.
Eh ben donc moi j'ai 31 ans, je joue au foot depuis l'âge de 7 ou 8 ans, je sais plus exactement. Donc
ouais.
J'ai commencé au FC Lamure.
Ouais.
En 1999, il y a eu la fusion entre Lamure, Mins et Cor.
Ouais.
Donc j'ai logiquement basculé dans le nouveau club du FC Sud-Isère.
D'accord.
Et depuis ben je joue dans ce club. Donc là en septembre, je vais démarrer ma 14e saison senior.
Ouais.
Et puis ma 15e saison tant que dirigeant ou éducateur.
Ouais, d'accord, ok. Tu jouais quel poste du coup ? Enfin, tu joues quel poste ? Parce que tu continues de jouer.
Je suis pas très technique, pas très offensif, donc.
Derrière ?
Je suis derrière ou au milieu, mais ouais. Un statut bien défensif.
Ouais, d'accord, ok, super. Et comment tu es devenu du coup éducateur, dirigeant de ce club-là ?
Eh ben éducateur parce que on fait partie de, enfin, des clubs où il n'y a pas de rémunération, pas vraiment d'indemnité.
Ouais.
Donc quand on arrive à 17-18 ans, ben en principe, dans le club, on propose à tous les jeunes qui souhaitent s'investir de le faire.
D'accord.
Et donc ça s'est fait naturellement.
D'accord, ok.
Voilà, mes 17 ans.
Ça marche. Tu as passé des diplômes pour devenir éducateur ?
Bah oui, j'ai le CFF 1, 2, 3.
Ouais.
J'ai fait la formation du 4, mais
ouais.
Comme je vais m'inscrire au BMF, enfin je suis inscrit, après je ne sais pas si je vais être pris.
D'accord.
Ils nous ont conseillé de retarder la certification pour la faire dans le cadre du BMF.
Ça marche. Et tu as toujours été éducateur de cette catégorie U15 ou est-ce que tu as d'abord pris des plus petits ou...
Non, j'ai commencé par les débutants.
Ouais.
Au moins 5 ou 6 ans. Ensuite, j'ai fait 4 ans sur la catégorie U10-U11.
Ouais.
Et là, je vais démarrer ma 4e saison en U15.
D'accord, ok.
Et en parallèle, donc, j'ai géré l'école de foot pendant 5 ans.
D'accord.
Au club.
Ouais.
Et puis, j'ai fait 2 ans et demi d'une sorte d'intérim en tant que co-entraîneur, joueur, enseignant.
D'accord, voilà. Ok. Comment ça se fait ?
Eh ben, parce que...
Il n'y a pas d'entraîneur.
C'est certainement la catégorie qui demande le plus d'énergie.
Ouais.
Et un petit peu tous les éducateurs qui avaient le profil pour le faire y étaient déjà passés et ne souhaitaient pas forcément y retourner à cette époque.
Ouais.
Et donc, ben, voilà, avec Mathieu Bataille, on a relevé le challenge pendant quelques années. Aidé d'autres éducateurs, évidemment, mais...
D'accord.
Et voilà.
Tu es toujours du coup responsable de l'école de foot ?
Non.
Ça tu passes le relais ?
Ouais, depuis que je suis passé sur le foot à 11,
ouais.
C'est pas, non, j'ai plus non plus les yeux forcément dans les petites catégories. Et puis,
d'accord.
Au bout de 5 ans, c'est bien qu'il y ait un renouvellement, je pense.
Ouais, mais bien sûr.
Ça fait voir une autre façon de penser. une autre manière de fonctionner.
D'accord. Tu te vois toujours dans les années qui viennent éducateur, on va dire des catégories jeunes, ou est-ce que tu te vois à terme évoluer peut-être et peut-être plus t'installer dans la catégorie senior?
Ouais, je pense que tant que je peux jouer, je jouerai. Et du coup, en jouant, j'ai vécu le rôle d'entraîneur-joueur.
Ouais, c'est compliqué.
Et voilà, je souhaite pas le refaire. Donc, ouais. Pour l'instant, évidemment, ce sera les matchs le samedi.
Ouais,
donc,
d'accord, ok.
En jeune.
Ouais, d'accord, ok, ça marche. Bon, et tu dois jouer encore longtemps
Ça, il faut demander au coach. Mais Oui, moi, je me vois jouer encore quelques années.
Ah, bon, c'est bien, tu prends toujours du plaisir, tout
ouais,
va bien.
D'ailleurs,
parle-nous un petit peu justement de l'équipe senior de Sud-Isère. Ça donne quoi au niveau de la poule, là
Et bah, du coup, on a été promu en D1
ouais.
Avant d'être, suite à des appels de deux clubs, donc de Balmenor-Isère et de Vézerons.
Ouais.
Donc, finalement, on a été remis à notre place en D2. Donc, voilà, on est tombé dans la poule A
ouais.
Avec des déplacements, des matchs contre des équipes aussi proches de nous. Donc,
d'accord,
voilà, okay. On devrait passer encore une bonne saison. Ça, c'est pour le championnat de D2
ouais.
Et notre équipe réserve est en D5.
D'accord, donc, ok.
On attend les poules.
Ça marche. Et au niveau objectif pour cette équipe senior, c'est quoi pour l'année prochaine?
Je pense que clairement, ce sera une montée pour les deux équipes.
D'accord.
Ça, c'était l'objectif la saison dernière.
Ouais.
Ça s'est joué à...
À pas grand-chose.
À pas grand-chose.
Mmh.
Et donc, on n'en a pas encore... on a une réunion ce soir pour justement
d'accord.
pour discuter de ça. Et je pense que, connaissant l'entraîneur des seniors, j'ai aucun doute sur ses objectifs.
D'accord, ok, ça marche. Je retourne sur la catégorie U15. Ça fait 4 ans, tu m'as dit, du coup, que tu étais coach de cette catégorie. Qu'est-ce qui te plaît dans cette catégorie? Pourquoi tu restes, justement, entraîneur des U15?
Eh bien, je reste parce que moi, déjà, je trouve que c'est bien d'être stable sur une catégorie.
Mm.
On voit des clubs, ou même nous, dans notre club, ça nous est arrivé de le faire, à moi le premier, de suivre une génération.
Oui.
Et je ne suis pas convaincu que ce soit le mieux. Je pense que si, dans un club, on a la possibilité que les éducateurs soient stables
ouais.
sur une catégorie, c'est mieux.
Oui.
Puisque ça permet aux enfants de voir différents entraîneurs, différents fonctionnements.
Oui, c'est vrai.
Bon ou moins bon, d'ailleurs.
C'est vrai.
Mais ça permet de... Enfin que tous les enfants aussi, ou que le maximum d'enfants aient la possibilité de profiter de plus d'éducateurs.
Ouais.
Voilà, si un enfant a commencé en U7 et est arrivé en U13, il a toujours eu le même coach.
Ouais.
Oui, il peut être très... Effectivement, le coach le connaîtra très bien. Mais je ne suis pas convaincu que c'est ce qui lui ouvrira le plus l'esprit.
Non, puis je pense que c'est bien aussi que les jeunes, entre guillemets, du club et les parents et tout le monde identifient telle catégorie et l'associent à un entraîneur qui est, entre guillemets, expert de sa catégorie depuis pas mal d'années. Donc, ça permet aussi de dire, tiens, l'année prochaine, j'ai hâte d'être en U15 pour être avec Guillaume ou être en U17 pour être avec un autre.
Ouais, complètement.
Et de changer. Donc, je pense que c'est bien. Est-ce que ta fidélité, ta longévité au club c'est pareil pour les autres? Est-ce que les entraîneurs, les dirigeants qui sont là, ils sont là depuis longtemps, ou est-ce qu'il y a quand même un petit peu de turnover?
Oui, je pense que les éducateurs, comme je disais tout à l'heure, ou les jeunes en tout cas, commencent à être éducateurs autour de leur majorité.
Ouais.
Et du coup, on se retrouve avec des personnes qui ont mon profil, en fait, qui ont ouais. commencé très jeune au club, qui ont connu pour la plupart que ce club-là.
Ouais.
Et du coup, on a un attachement en particulier.
D'accord.
Et puis, on n'est pas comme dans les clubs de l'agglomération où on fait 2 arrêts de tram et on peut changer de club. Quoi.
Oui, c'est vrai.
Chez nous, on a des clubs autour. Hein. Il y a l'Est-Suville, il y a Pierre-Châtel,
ouais.
il y a le club de Valmontoise.
Ouais.
Mais sinon, il faut faire 35 minutes de route pour aller à Champs-sur-Drac, quoi.
Bien sûr,
ou à Saint-Georges-de-Comines.
Oui, c'est vrai.
Donc,
tu as eu des propositions, toi d'ailleurs, d'autres clubs?
Non.
Tu dois rester de toute façon à Sud-Isère.
Ouais, moi j'aime bien les couleurs, donc
ouais.
je me vois bien rester à Sud-Isère. C'est ça.
T'as bien raison, tu seras peut-être le Francesco Totti.
En tant que joueur, ce sera sûrement le cas. Hein, parce que, de toute façon, en tant que joueur, c'est sûr que normalement personne ne viendra me chercher.
D'accord, ok. Et t'habites là-bas, du coup, sur le plateau?
Ouais, j'habite à Lamur.
Ouais, ok. Bon, super. Bon, c'est déjà pas mal. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour ton équipe U15? Moi, je me demandais, du coup, elle évolue à quelle catégorie,
L'équipe U évolue en D1.
Ouais.
On s'est maintenu la saison dernière.
Ouais.
Et notre équipe 2 sera en D3, donc en poule de brassage pour démarrer la saison.
D'accord.
Voilà, nous, l'objectif, déjà, dans un premier temps, c'est de maintenir nos deux équipes à 11.
Oui.
Parce que ça n'a pas été toujours le cas au club.
Oui.
Donc ça, c'est le premier objectif. Et puis ensuite, de faire progresser les enfants. Au niveau de l'équipe 2, déjà, ce ne sera pas forcément un objectif chiffré en tant que classement, puisque de toute façon, il n'y a pas de rétrogradation possible. Et puis, on a aussi des débutants dans cette équipe.
Oui, c'est pas évident.
C'est pas toujours simple de vouloir gagner les matchs. Par contre, même si ce ne sera pas l'objectif principal, pour l'équipe D1, ce sera de se maintenir.
Oui, d'accord, ok. Donc encore le maintien. C'est pas trop difficile, je voulais terminer mon interview sur cette question. C'est pas trop difficile quand on est éducateur justement de ces catégories U15, même U13, ou quand on a une belle génération qui arrive et qu'on la voit partir et qu'on sait pas trop, on est un peu dans l'inconnu sur la catégorie, enfin sur la génération qui arrive, de se dire bon, bah finalement j'ai bâti quelque chose avec cette équipe là, j'ai réussi à monter et de se dire bah l'année prochaine ça va peut-être être plus difficile.
Ouais, c'est difficile, mais on s'aperçoit que finalement le boulot des autres coachs en dessous finalement il est bon et on a souvent des bonnes surprises.
C'est vrai?
On a toujours l'impression que ce sera moins bien la saison suivante. Puis, enfin, moi en tout cas en tant que coach dans la catégorie U15.
D'accord.
Voilà,
t'as jamais connu de descente
Si, la première saison.
Première saison.
On est descendu de D1 en D2 et
d'accord.
Mais on est remonté l'année suivante.
Ah bah c'est bien. Voilà. C'est bien, faut pas se laisser abattre.
Voilà. On n'a pas de pression du club vis-à-vis des résultats, donc
c'est
là-dessus.
Vrai.
Bon. On est plutôt tranquille.
Eh ben écoute, c'est super. Guillaume, on va terminer cette première partie d'interview et on va basculer après une petite pause musicale sur la partie du jeu du question-réponse. Tu as choisi un morceau d'ailleurs pour entre guillemets l'intermède de ton passage, la chanson des Corons de Pierre Bachelet. Pourquoi ?
Eh ben c'est un petit hommage à notre pays, un de nos pays, le plateau Matézin, Lamure, où il y avait une mine de charbon qui a fermé. Un peu à la fin, dans les années 90, je ne sais pas exactement, mais
d'accord.
Dans les années 90.
Ok, voilà. Eh ben, écoute, on va vous laisser quelques minutes avec cette chanson mythique de Pierre Bachelet. À tout de suite sur RKS.
Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras, je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays et je lui dois ce que je suis. C'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, des mineurs de fond, et c'était mon enfance. Et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils à défaut de montagne, d'en haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire comme l'étaient ses parents. Ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse comme on est d'un pays. Grâce à eux je sais qui je suis. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose, posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris. Oh non, c'était les cons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond.
Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Et on est de retour sur RKS pour l'émission Rien à foutre. Je suis toujours en compagnie de Guillaume Le Gall pour cette première mi-temps. Donc on a un petit peu fait connaissance avec Guillaume. Bon, je le connaissais un petit peu, mais c'était l'occasion aussi de le faire venir et de le faire parler un petit peu de son entre guillemets métier, de sa passion pour le foot et pour l'éducation ouais. sportive.
Ouais, c'est pas mon métier, hein, je te rassure.
Non, mais je sais bien. Donc voilà, bah écoute, Guillaume, je vais te proposer maintenant un petit jeu de questions-réponses. C'est un petit moment que j'affectionne particulièrement dans l'émission parce que tu vas parler un petit peu de ce que tu aimes dans le foot. Et donc je vais te poser la première question, qui est une question normalement assez facile pour entrer en matière, c'est pas mal. Quel est ton club de cœur?
Je suis pas supporter, ouais. Mais si je dois choisir un club, ouais, je dirais le RC Lens.
Ouais.
Ben, simplement parce que quand j'ai débuté le foot, je pense qu'il n'y avait pas autant de matchs qui passaient à la télé.
Oui.
Et puis l'identification à un club s'est faite avec les albums Panini.
Ouais, d'accord.
Voilà, donc le seul Guillaume de l'album Panini.
qui évoluait en Ligue 1 voilà, à l'époque, c'était Guillaume Varmuz.
C'était Guillaume Varmuz.
Oh, c'est sympa comme, ouais. comme anecdote.
Et pour la petite histoire, mon frère qui s'appelle Corentin, du coup, était pour la J Auxerre parce qu'il y avait Corentin Martins.
Ah, voilà, donc, d'accord, ok. Ouais, mais c'est vrai que quand on est un peu plus jeune, on se dit, bah, oui, un joueur qui s'appelle pareil que moi, donc du coup, je vais le suivre un peu plus que les autres, je suis son club.
Et... C'est ça, mais j'ai pas fini gardien pourtant. Mais...
non, t'as raté ça. Ah, oh, Guillaume, ça va pas du tout, hein, ça va pas du tout. Non, mais du coup, bah, toi, tu t'es jamais sinon identifié à un autre club
Après, si, je me suis, enfin, pas identifié, mais c'était Barcelone.
Oui.
Voilà, j'ai bien aimé Barcelone parce qu'en plus, pour ce qui dégage oui. en tant que philosophie de club, et voilà, c'est, enfin, ça a été un idéal en tout cas, ça l'est peut-être plus maintenant, mais.
Oui.
Moi, ça a été mon idéal à un moment.
Ouais. Bah, je pense que pour tous les entraîneurs, ils auraient aimé pouvoir faire jouer leur équipe comme Guardiola faisait jouer Barcelone à une époque.
Ouais, il y a toujours des détracteurs, mais ouais, au fond, mais après, faut être chacun.
Faut être un peu objectif. Moi, je suis pas plus supporter de Barcelone. C'est pas un club que je porte spécialement dans mon cœur, mais bon, quand tu les voyais jouer à l'époque, c'était magnifique, quoi.
Ouais, puis ils gagnaient donc.
Puis ils gagnaient en plus, parce que jouer bien, c'est une chose, mais gagner en jouant bien, on voit que c'est de plus en plus difficile. Puis il y a de plus en plus d'entraîneurs qui, je trouve, privilégient trop un petit peu l'aspect efficacité, l'aspect comment dire, calcul même, en disant bah voilà, je vais mettre un but, je vais bétonner derrière, et puis du coup des équipes qui jouent bien et qui gagnent, un peu comme Liverpool maintenant, ou ça fait plaisir, je trouve. Ça laisse en tout cas de bons espoirs pour ceux qui aiment le beau jeu.
Oui, et puis l'intensité, voilà, enfin, quand tu parles de Liverpool,
oui.
Voilà, même si le jeu est pas exceptionnel, rien que quand on voit l'énergie qu'ils mettent sur le terrain, c'est rien que ça, c'est beau.
Ouais, tout à fait. Alors, j'ai pris une deuxième question, Guillaume, mais je sais pas du coup si tu m'as déjà donné la réponse. Le joueur qui t'a le plus marqué dans ton enfance?
Dans mon enfance?
Ouais.
Non, là, je peux pas dire Guillaume Varmuz quand même. Bah, dans mon enfance, ouais, je dirais Zidane, parce que
Zidane.
Voilà, j'avais 10 ans en 98 et.
Ouais.
Voilà, c'est quand même celui qui nous a fait gagner la Coupe du Monde.
Eh oui, c'est vrai. On a fêté la 22e bougie pardon, de ce sacre.
Exactement.
Il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, donc forcément, ça t'a marqué. C'était le meilleur à l'époque. Hein. avait pas grand monde qui avait son niveau quand même.
Ouais, en tout cas, bon, il a gagné qu'un ballon d'or, mais ouais. Enfin, je crois qu'il a gagné qu'un ballon d'or, mais
alors c'est quand même un petit peu surprenant ce que je vais dire, mais moi qui je suis pas spécialement fan de Zidane, mais il faut dire qu'à l'époque où il jouait, il y avait quand même aussi des sacrés clients, hein, parce que tu avais Ronaldo déjà, le vrai, comme on dit, comme certains le disent.
Ouais, le numéro 9. Ouais.
Le numéro 9 qui était quand même extraordinaire. Et puis bon, t'avais quand même deux trois autres bons joueurs aussi, hein, donc qui ont gagné aussi les ballons d'or et qui les ont pas volés, donc,
c'est ça. Oui, non mais
Non, c'est vrai, tu as raison. Et du coup, est-ce que tu as un joueur maintenant plus actuel qui joue à l'heure actuelle qui t'impressionne particulièrement?
Enfin, s'il faut citer deux gars, Ronaldo et Messi, simplement. Mais ouais, même si je trouve pas que ce soit ceux qui fassent le plus d'efforts sur le terrain, mais en tout cas ils savent être décisifs. Et c'est ce qui est le plus dur dans le foot, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Être constant sur la durée, marquer 50 buts pendant je sais pas combien d'années consécutives, même s'ils sont dans les meilleures équipes.
Oui, c'est
voilà,
vrai.
En tout cas, les chiffres parlent pour eux, quoi.
Oui, c'est sûr. C'est pas les premiers bons joueurs très bons joueurs qui ont joué dans des grandes équipes, hein, mais c'est les premiers en tout cas à avoir réalisé effectivement cette espèce de comment dire, de longévité au niveau des statistiques. Et puis voilà, c'est des compétiteurs, hein, donc c'est vrai que ça force le respect. Est-ce que tu es plus CR7 ou plus Messi?
Ah, je suis plus Messi, ouais. Ouais. Non, ouais.
Barcelone, hein, forcément, tu m'as dit tout à l'heure.
Et puis la fidélité, enfin, c'est beau aussi, même si qu'est-ce que tu veux de plus que Barcelone?
Oui.
Mais c'est beau, des joueurs qui ont une carrière comme la sienne, de rester dans ce club. Je pense à Ryan Giggs à Manchester, Totti à la Roma.
Oui.
Voilà, ça reste des gars qui auront été fidèles à leur club.
C'est vrai, tu as tout à fait raison. Et puis ça se perd de plus en plus. Et moi, ce que je constate aussi, et les gens qui viennent dans cette émission, ils le disent aussi, hein, c'est que maintenant, même la longévité et la fidélité dans un club, même au niveau amateur, ça se perd aussi facilement que les professionnels, finalement. Les professionnels, ils ont l'attrait de l'argent un petit peu, du statut. Mais moi, ça me surprend parce que quand t'es un footeux amateur, que tu ne voulais pas dans un niveau professionnel, tu es censé privilégier aussi un petit peu les valeurs, enfin, je ne sais pas.
Mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Oui,
ça se perd.
Oui. Donc, on voit de plus en plus de joueurs qui changent de club.
C'est vrai.
D'ailleurs, les mutations au niveau de la fédération ont augmenté, c'est peut-être pour un peu enrayer ça.
Ouais, non, mais c'est vrai, et puis c'est bien, c'est vrai.
Les frais de mutation, maintenant, c'est 100 euros pour un joueur senior.
Ouais.
Pour
certains clubs, ça fait
c'est un coup pour les clubs.
Ouais, bien sûr, c'est sûr, tout à fait. Est-ce que du coup, tu as un joueur que tu aimes moins? Est-ce que tu as ou que tu as aimé moins ou que tu n'aimais pas forcément regarder jouer?
Non, c'est pas que je l'aime moins, mais si je dois donner un exemple, c'est Lacazette, parce que je trouve que c'est un gars qui est super fort, et puis j'ai tellement vu faire de matchs excellents contre le PSG, notamment quand il était à Lyon, et puis passer à côté d'autres matchs, voilà, c'est pas que je le déteste ou que je l'aime pas, mais voilà, c'est la différence avec Messi ou Ronaldo qui sont toujours bons.
Ouais.
Lui, on dirait que il est intéressé par les gros matchs surtout. Enfin, je dis ça, c'est un avis complètement
il est dans une passe un petit peu compliquée à Arsenal, parce que je crois qu'en plus Arsenal veut le vendre. C'est vrai qu'il a pas réussi à passer ce cap de joueur bon joueur à très bon joueur, hein, en passant à Arsenal. Bon, tu me diras, en ce moment, Arsenal, c'est pas non plus la garantie.
Ouais, il est peut-être pas arrivé dans la bonne période, mais.
Ouais, c'est ça. Puis bon, après, c'est comme ça, hein, c'est peut-être un joueur qui, effectivement, restera un bon joueur de Ligue 1 ou un joueur correct pour les autres championnats, entre guillemets, plus difficiles. Mais écoute, je note Lacazette. C'est déjà bien de m'avoir donné un nom, parce que je vais pas te mentir, mais 80% des gens qui viennent ici ne me donnent pas de nom.
Ah.
Voilà. Bon. Et moi, je peux t'en citer 10 des joueurs que j'aime pas.
Ah. Vas-y, cite-en un pour moi.
Ah, Ibrahimovic. En ce moment, c'est celui qui m'énerve le plus. Donc voilà. J'aime pas. En fait, c'est pas
le joueur. Ouais.
C'est pas les qualités footballistiques, parce que quand tu deviens professionnel, que t'as une carrière comme celle d'Ibrahimovic, par exemple, où il a joué dans les plus grands clubs, il a quasiment tout gagné dans sa carrière. C'est pas les qualités footballistiques, parce que c'est le minimum pour être à ce niveau-là. C'est plus les qualités humaines, les valeurs qu'il porte et qui aussi donnent une image du foot dans le monde, même sur les gens qui suivent pas trop le foot. Moi, je me dis, tu vois, quelqu'un qui ne suit pas le foot et qui regarde de temps en temps ou qui entend de temps en temps quelque chose, il va entendre qui ? Il va entendre les personnes qui l'ouvrent le plus, ouais, ou les personnes qui sont le plus attirées par les feux des projecteurs. Et, et tu vois, je me dis, quelqu'un qui n'aime pas le foot ou qui est déjà sceptique sur le football, avec tous les préjugés faciles que les gens peuvent avoir sur le foot, bah tu vois, il va écouter Ibrahimovic, il va se dire, bah tu vois, les footballeurs c'est tous des cons,
ouais,
quoi.
Ouais,
tu vois,
le raccourci est vite fait.
Ils sont tous, c'est tous des arrogants, tu vois, ils se la pètent, ils s'en foutent du club pour lequel ils jouent, tout ce qui les intéresse c'est l'argent, ils sont trop payés, etc., etc. Et je trouve c'est dommage parce que c'est des joueurs comme lui qui font pas avancer la cause du football, je trouve, dans le...
Ouais, t'as tout à fait raison.
Dans le monde, et c'est dommage. Alors, je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais il est fort !» Oui, mais on s'en fout. Enfin, il y a plein de joueurs qui sont forts et qui, en plus, ils arrivent à être des super mecs sur le terrain et en dehors. C'est si compliqué que ça. Donc voilà. Tu vois, tu m'as lancé sur Ibrahimovic, on pourrait faire une émission entière sur lui. donc voilà. Bah écoute, moi je te remercie, Guillaume, en tout cas pour tes réponses, pour le temps que tu as pris pour venir justement jusqu'à chez nous. J'espère que tu as passé un bon moment.
Bah de rien, oui, complètement, ouais, j'ai passé un bon moment. Merci pour l'invitation.
Bah écoute, c'était avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Notre interview, elle touche à sa fin. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. En tout cas, tu reviens quand tu veux.
Merci.
Et puis tu pourras m'envoyer peut-être le coach des seniors ou le président, pourquoi pas aussi de Sud-Isère. Moi, ça me ferait énormément plaisir. Il faut qu'il y ait justement des clubs un peu plus reculés, entre guillemets, qui viennent faire cette émission, parce qu'après, on a l'impression souvent qu'on se dit, bah tiens, Kevin, il reçoit toujours les mêmes clubs, ou les clubs de l'agglo, ou les gros clubs de l'agglo. Il y a aussi des petits clubs qui travaillent bien, qui ont des valeurs, qui, avec des gens qui sont là-bas depuis longtemps et qui portent les valeurs du club. Moi, je trouve que c'est important. En tout cas, moi, je lance un appel. Hein, si vous êtes même dirigeant, même supporter ou joueur ou entraîneur d'un club qui n'est pas encore passé dans cette émission, parce qu'il y en a, on n'existe pas depuis si longtemps que ça. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, sur Instagram pour passer dans l'émission.
Ok, ben, je passerai le message.
Merci,
par chez nous.
Merci Guillaume. On va marquer une courte pause et puis je vais revenir du coup dans cette émission avec Damien Padia, préparateur physique. À tout de suite sur RKS.
Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS. We'll be right back. Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Oh, the highway to hell. Ça fait toujours bien, toujours du bien un petit ACDC. Moi, ça me met la pêche pour l'émission. Bon, vous êtes toujours sur RKS pour votre émission Rien à foutre. Et j'attaque la deuxième mi-temps de mon émission puisque je suis avec Damien Padilla. Ça va ?
Salut Kevin.
Ouais, excuse-moi, je t'ai pas mis le son. Ah ouais. Bah c'est sûr que sans le son, ça va être plus compliqué. Je voulais reprendre Guillaume, du coup, tu vois. Bon, comment vas-tu ?
Ça va très bien. Bon. Merci de l'invitation.
Mais c'est avec grand, grand, grand plaisir. Et moi, comme je t'ai dit en off, je voulais absolument que tu viennes dans cette émission parce que je voulais qu'on parle un petit peu de préparation physique parce que c'est important quand même hein, pour tous ces clubs, tous ces joueurs qui, aussi un peu avec la période particulière qu'on a eue, le confinement, donc l'arrêt peut-être total de sport pendant pas mal de temps pour pas mal de joueurs. Toi, je sais que tu travailles avec un club en particulier qui s'appelle le Football Club de la Vallée de la Grèce, qu'on connaît bien dans cette émission parce que j'ai reçu plusieurs fois le président, j'ai reçu le nouveau coach Manu Ribeiro, j'ai reçu Arnaud Ravix, Loïc Ferry qui n'est plus dans le club mais qui du coup était coach aussi là-bas, le nouveau directeur sportif. Donc moi, je voudrais un petit peu que tu nous parles déjà de ton parcours. Comment tu es devenu préparateur sportif, comment tu es arrivé dans ce club de la Vallée de la Grèce. Moi, voilà, je veux tout savoir.
Eh bien, tu vas tout savoir.
Super.
Donc moi, je suis préparateur physique depuis 2007-2008.
Ouais.
Et j'ai créé ma société en 2011. Et d'accord, c'est là où j'ai attaqué à travailler avec la Vallée.
D'accord.
J'ai attaqué en 2011 avec Christophe et Cyril.
Ouais.
L'année après, on est monté en DH.
Ouais.
Et puis voilà, et puis
eux qui sont venus te chercher, je te coupe.
Ouais, c'est Christophe. Ouais. Après, ouais, on se connaissait parce que j'ai joué au foot à la Vallée.
Ah, d'accord.
En équipe 4 senior, c'est très bien.
Bah, tu sais, hein, c'est la passion avant tout. Hein.
Tout à fait. Non, j'ai toujours joué même chez jeunes, Benjamin, ouais, Poussin.
Ah d'accord, donc un club que tu connais bien.
Je connais très bien le club et puis quand ils ont su que j'avais créé ma société en tant que préparateur physique, et ben, ils sont venus me chercher.
D'accord, ok.
Et depuis, ben, ça dure, même avec le changement d'entraîneur, et ben, on continue l'aventure.
D'accord, ok, ça marche. Donc du coup, t'as connu du coup, le nouveau coach Manu Ribeiro. Quels ont été les mots que vous avez échangés
Bon, on ne se connaît pas, on a ouais, discuté ensemble, mais on ne sait ouais, pas connaître des hommes, on va apprendre à se connaître sur le terrain.
Ouais.
Et quelqu'un de, je pense, il est dans la lignée de Christophe, ça se sent,
ouais,
passionné, ouais, il aime ce qu'il fait, et puis on va avancer, et puis on va voir.
D'accord, tu as discuté aussi avec le directeur sportif ?
Avec Boug, un peu moins, on s'est croisé une fois en réunion, mais
d'accord,
on va échanger.
Ça marche. Et du coup, tu travailles avec un seul club de foot, tu m'as dit, donc c'est le club ouais, de la Vallée. C'est un choix aussi ou tu as été démarché aussi par d'autres
non,
clubs ?
Non, c'est 95% de mon travail, c'est l'individuel,
ouais, d'accord,
sauf pour la Vallée où je fais du collectif.
D'accord, ok, donc, ça marche. Voilà. Ça marche. Et comment tu es devenu du coup préparateur sportif ? C'était une volonté de ta part depuis longtemps ou tu l'as découvert sur le tard ?
Non, depuis l'âge tout petit, et je crois qu'Arnaud a dit la même chose d'ailleurs dans cette émission, on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui est passionné de sport à Vars, oui, dans les écoles, Daniel Roblot.
Oui, et oui, c'est vrai, il en a parlé.
Il en a parlé ouais, parce ouais, que c'est une des personnes qui nous a transmis la passion pour le sport et pour l'enseignement et l'éducation dans le
d'accord,
pour le sport. Et donc du coup, et ben, depuis tout petit, j'ai voulu travailler dans le sport.
D'accord.
J'ai, au départ, je voulais faire prof de PS, entraîneur de tennis. Et au fur et à mesure, et ben, je me suis dirigé vers la prépa physique.
D'accord. Et, avec quel diplôme du coup ?
Donc moi, j'ai deux licences TAPS à Grenoble, d'accord, du FRAPS. Et j'ai un DU de préparateur physique.
D'accord, ok.
À Dijon, au CEP de Cometti.
D'accord.
Et donc voilà, et puis comme je disais tout à l'heure un peu en off, c'est que j'ai eu la chance aussi, c'est que quand j'ai attaqué ce métier de préparateur physique et de coaching sportif, de coach sportif, sur Grenoble, on n'était pas beaucoup.
Oui.
C'était en 2007, on a commencé, ma société en 2011, on n'était pas très nombreux, mais aujourd'hui, on est très nombreux. Quoi.
Donc, ouais, tu m'as dit qu'il y en a de plus en plus tous les ouais, ans, tant que tu découvres des nouveaux...
C'est un métier qui fait rêver aujourd'hui.
Ouais, pourquoi, tiens ?
Parce qu'on a l'impression de l'extérieur que c'est un métier où on fait du sport toute la journée.
Ouais.
C'est un peu le métier qui fait rêver, on donne des haltères, il fait un peu de musculation. Et puis moi, je suis à côté, je crie avec mon sifflet. Or, avoir une société dans la prépa physique, c'est beaucoup, beaucoup d'administratifs. Il faut savoir se vendre, il faut savoir faire du sport. C'est la base de notre métier, mais surtout, il faut aimer partager et... aimer à coacher les gens
ouais,
et faire de l'humain quoi.
Ouais, tu m'étonnes parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que même le rapport avec le sport pour les personnes il a changé, il a beaucoup évolué ces dernières années. On a l'impression qu'avant peut-être pour la génération par exemple de mes parents, tu vois, c'était faire du sport, c'était pas très important, ou du moins ce n'était pas prioritaire au point que ça l'est pour certaines personnes aujourd'hui. On voit qu'il y a de plus en plus de salles de sport. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il en pousse une par jour dans les quartiers de Grenoble, avec les noms qu'on connaît, etc. Il y en a même des fois deux, trois par ville. C'est pas rien. Ça veut dire aussi justement que les gens font plus de sport, ce qui est peut-être bien aussi. Hein. Mais du coup, on a vu peut-être émerger grâce à ça ou à cause de ça pas mal de préparateurs physiques ou de coachs sportifs. Tu partages ça ?
Ah oui. Ouais. Après, quoi, on a fait une relation avec quelqu'un il y a 10-15 ans,
ouais,
comme quoi la santé était liée au sport.
Ouais.
Ça, avant, ça n'existait pas énormément avant.
Ouais.
Avant, c'était tu faisais du sport, tu allais jouer au foot, les filles allaient faire de la danse. Et
ouais.
Au final, c'était ça, quand ouais, on mentait à quelqu'un il y a longtemps. Et ça fait 20 ans qu'on commence à penser, c'est qu'au final, le sport, on ne parle pas du haut niveau là, mais le sport, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on peut limiter les blessures, les effets du vieillissement sur le corps humain,
ouais,
et on peut être bien dans sa peau grâce au sport.
Ouais.
Et donc, à partir du moment où on a fait cette passerelle entre les deux, les gens ont commencé à se diriger vers le sport.
D'accord.
Et comme ils avaient plus ça va et plus les métiers sont de moins en moins physiques pour la plupart,
ouais,
et ben ils se sont dit, ben moi je ne suis pas du sport toute la journée, donc du coup je vais en faire un peu en dehors.
Ouais.
Et du coup, c'est pour ça que ça s'est développé. Et surtout, c'est les méthodes qui sont développées. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui faisait du sport avant, il allait courir une heure et demie. Aujourd'hui, il fait du sport en 45 minutes dans une salle de fitness, il a fait sa séance de sport la semaine.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis avant, il fallait, oui, si tu voulais faire du sport, il fallait t'équiper chez toi. Tu prenais une machine de muscu, des haltères, enfin bref. Et c'est vrai que maintenant, bah, pour quelques euros par mois, des fois, c'est même pas très très cher. Il y a des salles qui sont pas chères. Tu as accès maintenant à toute la panoplie du parfait sportif. Et toi, du coup, malgré le fait que, je sais, alors peut-être que je dis des choses totalement fausses, tu m'arrêtes tout de suite hein, si je me trompe, mais est-ce que du coup, tu te spécialises dans quelque chose, même en étant préparateur sportif? Est-ce que tu dis, bah moi, ma spécialité, c'est préparer les gens pour les trails, ou est-ce que tu touches vraiment à tout le monde et à tous les niveaux?
Alors non, j'ai la chance de toucher plein de sports différents. J'interviens dans le sport mécanique, le sport automobile, j'interviens dans l'aviron, dans le patinage artistique, dans le VTT trial, dans le quad. J'ai beaucoup, plein de sports différents.
Ouais. Et comment tu fais justement pour intervenir dans tous ces sports-là? Parce qu'ils ont tous justement leur spécificité, la préparation n'est pas la même. Comment tu as fait pour te préparer? Parce que je pense que je dis une bêtise, mais est-ce que tu as pratiqué déjà tous ces sports pour savoir un petit peu de quoi tu parles, ou comment tu t'es renseigné?
Ben, on va prendre un exemple, c'est le sport automobile.
Ouais.
Je ne peux, quoi, à part dans ma voiture, je conduis pour venir ici, mais conduire une voiture sur un circuit, c'est impossible pour moi. Mais après, c'est l'échange avec le pilote, savoir qu'est-ce qu'il a besoin. Donc au départ, c'est le sport, je ne connaissais pas. Quand j'entraîne par exemple Aurélien Panis, je ne connaissais rien de la voiture.
Ouais.
Pour moi, la voiture, c'était la F1, c'était le départ de la F1, c'était la sieste pendant la F1 et c'était la ligne d'arrivée quand on me réveillait.
C'est ça.
Et en fait, après, en discutant, après en se renseignant, parce qu'il faut échanger avec d'autres préparateurs physiques, il faut lire des études, il faut discuter pour comprendre ce sport-là et savoir de quoi a besoin un pilote pour être bon dans sa voiture.
D'accord.
Donc, c'est juste de l'échange. Ouais.
Et par exemple, dans le cadre de le sport automobile, même si c'est pas trop le thème de l'émission, mais ça m'intéresse, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais travailler les gens justement?
Bah, ça dépend après de la catégorie dans le sport automobile.
Il y a
plein de catégories différentes, mais souvent les pilotes, c'est des gens qui ont besoin d'avoir un cardio très développé.
Ouais. Pour rester... Le souffle peut-être.
Voilà,
aussi.
Le cardio, c'est le souffle. Pour rester lucide, pour pouvoir encaisser des charges de travail assez longues. Il y a des courses, des fois, c'est les 24 heures par exemple. Le record du Mans, 24 heures de spa, c'est 24 heures dans la voiture. Après, ils ont des relais de 2-3 heures, mais c'est 24 heures. Préparer à des chocs parce qu'ils peuvent se rentrer dans ils peuvent sortir.
Ouais.
Donc c'est avoir une musculature qui fait qu'on peut taper en rentrant dans un mur et puis on peut sortir la voiture vivant.
Ouais.
C'est aussi préparer le corps à freiner, à savoir freiner très fort, donc avoir une force au niveau du bas du corps très forte pour appuyer sur des pédales. Tourner un volant quand en monoplace par exemple, il y a pas la direction assistée, et ben il faut tourner un volant quand tu vas à 20, de 40, de 60, donc et puis préparer le haut du corps, la nuque qui prend cher dans les virages, jusqu'à 5G dans certains virages.
Tu m'étonnes. En tout cas, je suppose que pour faire ce genre de sport-là, tu recommandes de bien se préparer avant.
Aujourd'hui, tous les sports de performance doivent être préparés physiquement.
Ouais, bien sûr.
Ça n'existe plus.
Ouais, ça n'existe plus. Les gens qui se disent, bon, allez, je vais faire, je vais louer un circuit, je vais faire 10 tours et puis voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va revenir sur le foot, Damien. Là, on est en plein dans la période. On va dire, où on va rentrer en tout cas dans la période, on a entendu Mathieu Ciancy, l'entraîneur de Cessiné, qui disait moi je vais reprendre la semaine prochaine les entraînements pour préparer justement ma saison d'après. Comment toi, comment tu adaptes au foot justement les principes que tu as appris?
Alors, je ne vais peut-être pas te dire parce que j'en garde pour la vallée quand même.
Ah bah oui, mais, oui, voilà. Oui, un secret mais, professionnel.
Non, non, là, on a une période un peu très bizarre
ouais.
avec ce Covid.
Ouais.
Alors déjà, la première chose, je pense, c'est si on veut tous retourner sur les terrains de tennis, de foot en septembre ouais. ou en août, première chose, c'est de respecter les gestes barrières.
Oui.
Parce qu'on voit que ça s'arrête un petit peu, c'est un peu la leçon de morale, mais je pense que si on veut toujours jouer au football, c'est qu'il faut faire gaffe à ce virus, il est encore là et il faut qu'on fasse vraiment très attention à ça. Première chose. La deuxième chose, c'est faire attention aussi aux joueurs, parce qu'on va tous reprendre le football et avec les crocs, parce que tous les joueurs, ils ont envie de reprendre.
Oui.
Donc la deuxième chose, c'est de faire gaffe à que les joueurs soient à l'écoute de leur corps. Parce que certains ont pu être malades.
Oui.
Et en le sachant ou pas.
Oui.
Et les effets, on les connaît aujourd'hui et ils ne sont pas bons pour le corps humain. Donc il ne faut pas hésiter à dire, oula, je ne sens pas mon corps en ce début de saison. Je vais voir un médecin, je vais faire un électrocardiogramme ou une prise de sang pour vérifier que tout va bien. Quoi. Donc ça, c'est vraiment très important. La troisième chose, c'est faire attention aussi, c'est que c'est une des premières fois que des joueurs vont rester pendant quasiment 5 mois, 6 mois sans mettre un crampon. Ils sont restés pendant quasiment 2 mois dans des appartements, dans des maisons, en position assise ou en position allongée.
Ouais.
Et il va falloir faire gaffe au départ, à la reprise, de ne pas mettre les crampons tout de suite et en y allant très progressivement.
D'accord, ok. Ah, c'est intéressant.
Au niveau tendineux, on risque d'avoir des grosses tendinites au niveau du bas du corps.
Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Et bon, là, du coup, c'est le contexte lié un petit peu
au Covid.
Et normalement, comment tu prépares
après,
une saison ?
C'est une grosse période foncière au départ.
Ouais.
Donc de l'endurance. Aller chercher l'endurance, aller chercher aussi de la prévention.
Oui.
Se gainer, renforcer tous les muscles stabilisateurs du corps humain.
Ouais.
Adducteurs, les petits, moyens fessiers, et tous les fléchisseurs et extenseurs des chevilles. Et après, c'est y aller progressivement, être très progressif dans une reprise.
Ouais.
Et puis voilà.
Tu recommandes quand même de toucher un peu du ballon ou de rester sur de la préparation?
Oui, après, aujourd'hui, plus ça va et plus on essaie de reprendre avec du ballon directement. Après, on peut faire de l'endurance avec du ballon, on peut faire du travail intermittent avec du ballon.
Ouais.
Par contre, plus ça va, c'est des choses qu'on est en train de changer. Avant, il y a 5, quoi. Moi, j'ai commencé avec la vallée. On essayait de faire du physique, que du physique et que du ballon de l'autre côté. Et là, maintenant, on essaie de mettre les deux à la fois.
Ah oui, d'accord.
Même
okay.
si je suis persuadé, au fond de moi, c'est que faire du physique sans ballon, c'est très bien aussi.
D'accord, ok, oui.
Ça fait travailler la tête, et la tête d'un footballeur, il a besoin de travailler aussi.
Ouais, bien sûr. Non, mais oui, écoute, c'est très intéressant. En tout cas, voilà, s'il y a des joueurs, des entraîneurs, ou même simplement des gens qui vont faire du foot là après une période justement comme on a connu avec pas mal d'arrêts, faites attention, justement, mettez pas tout de suite les crampons. Du coup,
il faut y aller progressivement. Ça veut dire que la première semaine, vous allez avoir peut-être 4 entraînements, pas mettre les crampons sur les 4 entraînements.
D'accord, ok. Bon, ça c'est le conseil Damien Padilla du jour. On va marquer une courte pause, Damien, avec un morceau que tu as choisi. Alors, tu as choisi un morceau mythique de la variété française, c'est J'irai où tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Pourquoi ?
Parce que j'aime bien Céline Dion,
ouais.
les musiques de Céline Dion, et j'aime bien les musiques de Jean-Jacques Goldman.
Ça va ensemble. Parce
et
que...
comme j'en avais qu'une à choisir, on a tout mélangé.
Et c'est parfait. On va vous laisser avec ce morceau sur RKS. À tout de suite.
Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux d'étoiles sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine.
Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciels. Va pour les temps, tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule, où des bras me serrent.
J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers.
Va pour tes cocotiers, tes rivages. Va pour tes...
prends tes clics et tes claques.
Tes rêves et ta vie,
tes mots, tes tabernacles,
et ta langue d'ici.
Laisse tempêter la foule,
la fille de l'air.
Montre-moi tes étoiles,
montre-moi tes enfers.
Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les ondes des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les douces femmes nous portent et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux.
Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Vous êtes toujours sur RKS pour votre émission Rien à foutre. Je suis toujours en compagnie pour cette deuxième mi-temps de Damien Padilla, préparateur physique, coach sportif. Comme il nous le disait du coup dans la première partie de l'émission, il nous a parlé un petit peu de son parcours et puis un petit peu aussi de comment il travaille. On a appris plein de choses, donc ça c'est, je suis vraiment super content. Ça me renforce dans l'idée qu'il fallait que je te fasse venir, Damien. Et bien là, on va partir un petit peu comme on a fait pour Guillaume, plus une partie questions-réponses sur le foot. Je pense que même si tu touches un petit peu à toutes les compétitions et à toutes les disciplines sportives, je pense que le foot garde une place importante pour toi quand même.
Ah oui, j'aime bien le foot.
Ouais, bon, super. Alors, je vais te poser la même question que j'ai posée à Guillaume pour débuter. Quel est ton club de cœur?
Alors, pareil, aujourd'hui, je supporte plus vraiment de club, mais quand j'étais jeune, dans les belles années du PSG.
C'est plus les belles années maintenant.
Non, c'est que c'était avec ma vision de jeune enfant,
ouais.
C'était mon club de cœur.
Ouais, d'accord, ok, ça marche. Mais même maintenant qu'ils sont fait racheter par les Qataris depuis quelques années, ça ne te plaît plus?
Le foot professionnel, c'est plus compliqué.
D'accord, pourquoi?
Il y a beaucoup trop d'argent.
Ouais.
Et ça, c'est une valeur que quand on aime le sport et qu'on aime beaucoup de sports qui n'ont pas d'argent, et c'est compliqué d'aimer ça au final.
Oui, d'accord.
Après, j'aime le ballon, j'aime le football, mais tout ce qu'il y a autour du ballon là-haut, c'est pas ce qui fait rêver.
D'accord, ok. Moi, je suis, on va dire, partiellement d'accord avec toi parce que j'ai du mal à m'en défaire, moi, quand même. Mais peut-être qu'un jour, je te dirai pareil. Peut-être que ce qui me fera rêver, ce sera voir justement des clubs amateurs jouer, effectivement, sans tout ce qui est financier autour. Et puis voilà. Mais ok, je note, c'est très bien. Le joueur qui t'a le plus marqué dans ton enfance?
Alors, comme mon collègue Zidane.
Ouais.
Après, j'ai bien aimé Rai. Hein.
Ouais, j'imagine. J'imagine. Des numéros 10, en tout cas, qui ont marqué leur génération, aussi bien l'un que l'autre. D'accord, ok.
Ouais.
Ça marche. Est-ce que tu as un joueur maintenant qui t'impressionne quand même, qui joue? Quelqu'un. Ou pas?
Je regarde très peu le foot maintenant.
Ouais, ouais.
Très très peu le foot. Mbappé forcément,
Par
sa qualité de vitesse.
Ouais.
Après il y a tout ce qu'il y a à côté, mais la vitesse qu'il a, c'est impressionnant.
L'explosivité.
Les qualités physiques qu'il a, c'est...
D'accord. C'est... Pour son âge, c'est...
Son âge, c'est lié aussi. Hein, la vitesse, à 43 ans, c'est plus compliqué qu'à 18 ou à 19 ou à 20 ans. Mais c'est impressionnant.
Ouais, d'accord.
C'est impressionnant.
Ok. Le joueur que tu aimes le moins, est-ce que tu en as un que tu aimes moins ou pas?
Que j'aime moins. Alors, je vais pas rentrer dans les 80% que tu disais tout à l'heure, donc il faut que j'en trouve un.
Merci.
Ravanelli.
Ah, Ravanelli, Fabrizio, pourquoi? Parce que c'était l'ennemi juré PSG à l'époque.
Et qui s'écroulait dans la surface. Je sais plus quel match il s'était écroulé.
Ouais, le penalty. Ça t'a marqué, là, le classico où il simule, il se lève, il célèbre comme il s'est marqué.
Il fait le clin d'œil. Il n'y a pas eu une histoire de clin d'œil
Je sais pas ce qu'il fait. Bon, en tout cas, il célèbre un petit peu quand même le fait qu'il ait sifflé le penalty. C'est dommage parce que du coup, en France, on garde beaucoup une image de Ravanelli comme ça, ce qui est vrai. Hein. Mais moi, je ne l'ai pas connu parce que j'étais très jeune, mais qui ai vu quand même ce qu'il a fait avec la Juve, notamment avant de venir à Marseille, c'est que c'était quand même un bon attaquant. C'était pas le meilleur, on ne le citera peut-être pas dans les 50 meilleurs attaquants que le foot ait connu, mais en tout cas, ça a été, il a en tout cas un beau parcours dans le foot. Mais je note Ravanelli, merci d'avoir trouvé quelqu'un, Damien, ça fait plaisir. Est-ce que tu as du coup une préférence entre Cristiano et Messi?
Cristiano,
bah, ouais, Cristiano. Ça m'aurait surpris que tu me dises l'inverse, parce que quand on parle notamment de préparation physique, lui quand même il est quand même assez impressionnant aussi.
Il est impressionnant. Après c'est comme tout, c'est du haut niveau, on ne sait pas ce qui se passe vraiment.
Oui. Et il y a des rumeurs, il dort 4 heures toutes les 2 heures, ou je sais pas quoi, ou 2 heures toutes les 4 heures. Il mange toutes les 4 heures aussi, enfin je sais pas.
Après ça c'est du business, et ils parlent entre eux, oui. Ceux qui savent vraiment c'est ceux qui sont à côté.
Oui.
Mais en tout cas, Joute Serrain, il prouve que malgré son âge, physiquement, il est présent. Donc, c'est qu'il doit s'entraîner.
Oui, c'est qu'il doit faire des choses. Voilà. Bon, super. Est-ce que tu as un souvenir dans le foot qui t'a marqué et que tu gardes encore dans ton esprit aujourd'hui?
Oui, sur l'équipe de France, forcément. Zidane, oui. 98.
Est-ce que tu as quel âge, Damien? Tu n'as pas donné ton âge?
Moi, j'ai 34.
Ah, d'accord, ok, ouais, ça marche. 34. J'ai quand même deux entraîneurs, je trouve, aujourd'hui. Vous ne faites pas votre âge, vous faites plus jeune quand même.
Ça, c'est le sport, ça.
c'est ça. Faites du sport. Donc, ouais, 34, ok. Donc, ouais, donc tu as bien connu 98 quand même. Mmh. D'accord. Et 98 versus 2018, alors, ça restera 98?
Ouais, parce qu'on a les yeux d'enfant, donc tout ce qu'on a vu, c'est multiplié par 10.
Oui,
donc,
c'est
forcément,
vrai.
Forcément, ce qu'on a vécu en 2008, c'était magnifique, mais on n'avait plus les yeux d'enfant.
Ouais, c'est vrai, ça change. Est-ce que tu as un souvenir un peu plus douloureux, à part le pénalty de Ravanelli?
C'est la tête de Zidane.
Ouais, en 2006.
Ouais, en 2006, ouais. C'est la tête de Zidane, c'est... Pas le fait qu'on perde, après le sport, c'est le sport, il y a toujours un perdant et un gagnant à la fin. Mais c'est finir comme ça.
Ouais.
Parce que français, on aime Zidane et je trouve que c'est dommage. C'est dommage. D'accord, c'est pas l'image qu'il mérite.
Est-ce que tu fais partie de ces supporters de français qui disent qu'il a eu raison malgré tout?
Non, il a eu tort.
Non.
Non, il a eu tort. Mmh. Il a eu tort.
Non, parce que moi, ça me fait toujours bondir. Alors, c'est pas parce que je suis supporter aussi de la Squadra que je dis ça, mais c'est vrai. Moi, ça me fait toujours bondir quand quelqu'un me dit « Mais il a eu raison.
Non.
Attends, c'est bon, il insulte sa mère, sa sœur, ou j'en sais rien. Materazzi, c'est un con. » Alors oui, Materazzi, c'est un con, c'est sûr. C'est même peut-être le roi. Mais en attendant, des joueurs qui s'insultent sur le terrain, Guillaume, c'est pas toi qui va dire le contraire. Ça arrive quand même presque tous les dimanches ou tous les samedis.
Ça arrive régulièrement, mais bon, après...
Il faut être intelligent et pas répondre. Enfin, je sais pas.
Il vaut mieux, en tout cas.
Moi qui ai joué moins longtemps que vous, ça m'est arrivé de me faire insulter parce que j'avais mis un tacle un peu appuyé, parce que j'ai mis un petit peu d'intensité, ou parce que j'ai pris le ballon, parce que je jouais derrière, moi aussi. Mais, je veux dire, au bout d'un moment, ça fait partie du jeu, faut peut-être l'intégrer.
Je sais pas si ça fait partie du jeu, mais ça fait partie du jeu de certains.
Malheureusement, oui.
Ça fait partie du jeu de certains, mais... Voilà. En tout cas, je rejoins Damien, il a eu tort.
Voilà.
La réponse n'était pas bonne.
Merci de le dire. Non, mais en plus, j'ai lu un article qui parlait de ça, parce que justement, c'était le 9 juillet, il n'y a pas très longtemps, et Materazzi a fait une déclaration, comme il fait régulièrement depuis ce jour-là. Et puis, il dit, il reparle un petit peu de tout ce qui s'est passé justement à ce moment-là. Désolé, Damien, je vais peut-être pas attraper des bons souvenirs, du coup. Mais alors en tout cas c'est ce qu'il dit, hein, après, hein, toujours on sera son avis là-dessus, mais en fait il dit que justement juste avant il se touche dans la surface et il lui tire un peu le maillot, et lui il explique en fait, il dit moi si je tire le maillot de Zidane c'est parce que Zidane c'était le meilleur joueur, que si je le laisse faire il nous crucifie et puis soit il nous tue avant les pénaltys, soit il met un pénalty et puis c'est pas la même chose après. Donc il dit bon, pour moi marquer Zidane et marquer de cette manière là c'était pour moi normal. Maintenant il dit ce qu'il a pas aimé, il a dit, c'est que Zidane a une réaction à ce moment là où apparemment il le regarde un petit peu de travers et lui dit maillot, t'es gentil, mais c'est après le match, quoi. Et apparemment, il disait, il m'a regardé d'une manière en fait qui m'a moi-même énervé, et j'ai dit ces mots-là aussi. Il dit, je dis pas qu'il faut dire des mots comme ça sur un terrain de foot, mais en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a inspiré sur le moment, et il s'est passé ça. Voilà. Donc, c'était le petit flashback de 2006. On va essayer de terminer quand même l'émission sur quelque chose de plus léger, Damien. Est-ce que tu as un rêve ou un objectif pour la suite?
Oui, avec mes sportifs. C'est ouais. d'avoir quelqu'un qui arrive à avoir une médaille au JO, médaille d'or.
Ah, tu travailles avec des gens justement qui passent... qui...
J'ai Laura Tarantola qui est en aviron, qui est grenobloise et qui devait aller à Tokyo là.
Ah ouais.
Qui est allée et qui ira l'année prochaine à Tokyo. Donc,
D'accord, ok. Ouais, super.
Donc, voilà, c'est le rêve d'un préparateur physique d'avoir quelqu'un qui ramène une médaille d'or.
Ah ouais, ça serait super. Bah ouais, bah moi je te le souhaite en tout cas. Je le souhaite aussi aux personnes qui se préparent avec toi pour viser de tels objectifs. Mais déjà rien que de les voir arriver jusqu'à là, c'est quand même beau déjà.
Ouais, bon, c'est ce qu'on veut, c'est l'objectif.
Oui, mais c'est sûr qu'on se souvient pas des autres.
La boîte, la médaille. Hein.
Voilà, on se souvient de ceux qui ont eu la médaille, quoi. Bon, bah écoute, c'est un bel objectif en tout cas. Je vais le noter et puis j'espère en tout cas que ça va t'arriver. En tout cas, merci pour tes réponses et pour le temps que tu nous as consacré. Moi, je te souhaite bonne chance pour la suite et tu n'hésites pas à revenir nous voir quand tu veux.
Bah, merci beaucoup en tout cas, Kevin. C'était super sympa.
Bah, c'est normal. C'est bien normal. T'as passé un bon moment, ça va ?
Très bien. Super.
Et ben voilà, c'était un plaisir. C'était super. En tout cas, tu reviens comme tu veux, comme je te l'ai dit. Rien à foutre, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Guillaume, Damien, merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Et j'en profite pour vous rappeler que vous aussi, vous pouvez participer à cette émission. Vous êtes président, éducateur, arbitre, bénévole, joueur, dirigeant ou même simple supporter. Vous souhaitez parler de votre club ou d'un sujet autour du football qui vous tient à cœur. Bah, contactez-moi, vous êtes les bienvenus dans cette émission parce que Rien à foutre, c'est votre émission. Rien à foutre est aussi présent sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à notre page Facebook, sur Instagram, vous pourrez réécouter cette émission via le podcast RKS sur l'application ou alors sur Deezer, Spotify. C'est la fin de cette émission, merci encore de nous avoir suivis, je vous souhaite une excellente après-midi sur RKS.
Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.